Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test. Blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de cinéma qui dure une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, il y aura deux interviews. On est très heureux de vous les proposer. Et toi, Sophia, tu as rencontré le réalisateur de Resilient Man.
Absolument, j'ai rencontré Stéphane Carrel, donc pour parler de la résilience dans le milieu de la danse.
Et puis moi, j'ai rencontré Stéphane Desmoustiers, le frère d'eux, hein, de l'actrice, pour le film Borgo. Et tu as aussi vu un autre film qu'on a tous les deux apprécié, mais c'est toi qui vas le chroniquer.
Oui, coup de cœur de l'année 2024 pour moi, il s'agit de Riddle of Fire.
Et puis toi, Guillaume, tu as vu un film présenté à la quinzaine des cinéastes l'an dernier.
C'est ça, moi j'ai rencontré une mouette avec Ennis Man.
Quant à Manu, il nous parlera du Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Mais nous allons débuter avec un film plutôt attendu. Ce sont les États-Unis qui vivent la fin d'une guerre civile que l'on traverse avec une poignée de journalistes. Nous parlons maintenant de Civil War.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
19 États ont fait sécession.
L'armée américaine intensifie ses actions.
La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride.
Le président qui entame son troisième mandat assure que ce soulèvement sera rapidement maîtrisé.
On ne sait pas quand ni comment elle a commencé, mais une guerre civile frappe les États-Unis scindés en deux camps. La préparation de discours du président américain qui ouvre le film en dit assez sur l'issue du pouvoir de celui-ci. Civil War d'Alex Garland est attendu par certains, car en montrant une Amérique à feu et à sang, il donnerait dans l'oxygène à quelques mois des élections américaines. Il n'y a pourtant pas de lien à trouver avec les États-Unis actuels. Mais la force du film est sans doute de ne pas nous emmener dans un pays inconnu, mais bien au contraire dans un pays qui fait sans cesse parler de lui. Le réalisme est à ce point-là saisissant et les grands fracas de la bande-son sont redoutables. C'est aussi par des combats ultra-violents et une population prise à partie que débute ce film de guerre et d'action qui a vite fait de se transformer en road movie quand trois journalistes et une apprentie journaliste veulent rejoindre Washington pour voir une dernière fois le président avant qu'il ne rende les armes.
Aujourd'hui, ils avancent sur Washington.
On doit aller là-bas.
Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes.
Mon instinct me dit qu'on va y rester.
Allez-y.
Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est.
Plutôt que de nous mettre dans un camp ou l'autre, le réalisateur britannique nous fait donc épouser le point de vue de ces quatre journalistes. Il y a le vieillard du New York Times, un baroudeur de Reuters, une photographe de guerre aguerrie que joue Kirsten Dunst, adulée par une toute jeune photographe. Ce sera l'un des ressorts dramatiques du film, car si au premier abord la doyenne veut éloigner sa cadette de l'horreur, une relation va se nouer entre les deux femmes. L'une a tout vu quand l'autre n'a rien vu. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission quant au niveau politique, et bien cette transmission est au point d'arrêt, au point de mener jusqu'à l'affrontement.
Je crois qu'il y a comme un malentendu.
Quoi ?
On est américain,
d'accord ?
D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? Vous le savez pas ?
D'un certain côté, Civil War peut se regarder comme un film d'action remarquablement mis en scène, avec ce qu'il y a de combats rapprochés en ville, de lutte contre les snipers et autres combattants. La tension se mêle à la violence. Il peut se voir également comme un film politique, épousant la veine des films post-apocalyptiques. On y voit eh bien, des hommes qui appliquent leurs lois, non sans y ajouter le sadisme et la barbarie ou l'arbitraire. L'intérêt de Civil War, c'est justement qu'il n'est pas que cela. Il va bien au-delà. Par le point de vue qu'il prend, il permet au spectateur de prendre de la hauteur. Le personnage de Kirsten Dunst raconte ce que fait un photographe de guerre. Il voit, et c'est aux autres de se poser les questions. Elle se demande aussi, cette photographe, la portée de son travail, sachant qu'un conflit en éclipse un autre et que les horreurs y sont toujours comparables. La fin rompt dans son tempo avec l'action pour faire entrer la relation des deux femmes dans un récit couru d'avance. Alors c'est un peu dommage, mais même cela, le réalisateur l'a tellement bien préparé qu'on ne peut pas lui en tenir rigueur. Civil War de Alex Garland est en salle depuis le 17 avril. Stéphane Carrel suit au plus près Stephen McRae, un danseur qui a subi une blessure et qui parvient, coûte que coûte, à revenir sur scène. C'est la première interview de cette émission.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Habitué des formats reportage et documentaire télévisuel, Resilience Man est le premier documentaire pour le cinéma réalisé par Stéphane Carrel. Avec donc les difficultés que cela comporte en termes de financement notamment, Stéphane Carrel a pu compter sur la notoriété de celui qu'il a décidé de filmer pour Resilience Man. Son homme résilient n'est autre que Stephen McRae, le danseur étoile star du Royal Ballet de Londres. Pour le réalisateur qui se définit lui-même comme portraitiste, il s'agit bien de dresser le portrait du danseur. Ce n'est pas un documentaire sur la danse ni sur la prestigieuse compagnie de ballet britannique, même s'il est toujours question des deux. Le film porte sur le parcours de cet homme après une chute et donc sur son rétablissement. En 2019, alors que Stephen McRae est au sommet de sa gloire, adulé et considéré comme l'un des plus grands danseurs de sa génération, il se blesse lors d'une représentation au talon d'Achille et s'effondre sur scène devant 3000 personnes. Bien que sa carrière semble alors finie, il va prendre le temps d'une rééducation lente et acharnée pour pouvoir remonter sur scène en octobre 2021 et assurer un des rôles les plus physiques du répertoire, le Roméo de Roméo et Juliette. C'est les deux derniers mois de son rétablissement que filme Carrel et toute la saison de danse qui suit. La persévérance et le goût pour une forme de perfection obsessionnelle du danseur trouvent un écho évident dans la manière dont Stéphane Carrel réalise son film. Cela se ressent dans l'attention portée aux détails, dans l'esthétique très bien léchée du film, dans cette manière de suivre le danseur partout pour faire corps avec lui. Il filme avec beaucoup de proximité la beauté de toute la machinerie corporelle impressionnante de Stephen McRae. La sublime souvent en s'approchant au plus près de lui. Et puis il n'hésite pas à ouvrir parfois des parenthèses visuelles et poétiques, scénarisées, hein, comme des incursions dans la psyché même du danseur, dont la blessure est au moins tout autant psychologique que physique. Dans ce film très esthétique, nul doute que la résilience n'est possible qu'avec un entourage solide, que ce soit la famille, la compagne psy ou la compagnie de ballet elle-même qui l'encadre, le soutient et lui permet de remonter la pente jusqu'au bout. Ce qui nous rappelle bien aussi que la résilience n'a pas toujours un visage aussi glamour chez Monsieur Tout-le-Monde. Écoutons Stéphane Carrel nous parlait de son très joli film qui brise les tabous du métier de danseur en évoquant de manière très honnête les dérives du métier et la nécessité de faire évoluer les choses et nous permet une incursion inédite dans les coulisses du milieu et du parcours d'un homme hors du commun.
Ce qui m'intéressait, c'était de raconter la chute d'un homme et comment il remonte en fait. C'est pour ça que le titre s'appelle Resilient Man et qu'il n'y a pas forcément le mot danse dans le film. J'ai pas mal lutté là-dessus parce que je voulais pas qu'il y ait le mot danse, parce que je voulais lui donner un vrai caractère universel. Il s'avère que Stephen est danseur, mais j'aurais pu faire le portrait d'un autre homme qui fasse autre chose et qui tombe et qui doive se relever. Et comment on gère ça en fait. Et voilà, vraiment ça, pour moi, c'était important. Et c'est aussi pour ça que toutes les scènes dans son intimité, avec sa famille, ses enfants, tous ces moments-là, qu'on le voit dans le métro, etc., je les ai pas inventés, c'est vraiment vrai. Et je voulais montrer tous ces aspects d'homme un peu normal et parce que je voulais vraiment montrer la différence entre l'homme vraiment le côté très star de la danse et en même temps il rentre chez lui, il fait à manger, il est avec sa femme, il est avec ses enfants comme tout le monde en fait. Ce qu'a mis en place le Royal Ballet pour leurs danseurs, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire quand on arrive au Royal Ballet, il y a un étage entier dédié aux soins du danseur. Et ça, je crois que c'est assez exceptionnel dans le monde du ballet. Donc il y a nutritionniste, il y a pilate, il y a kiné, il y a masseur, il y a une salle de sport. Donc tous les danseurs du Royal Ballet, on les voit tous les jours s'entraîner du matin au soir. Ils se font masser après chaque répétition, après chaque spectacle. Enfin voilà, il y a une prise en charge qui est assez phénoménale. D'ailleurs, quand Stephen s'est blessé, il y a eu un scanner fait immédiatement sur place avant de poser un diagnostic. Donc tout ça, il fallait le montrer parce que oui, c'était exceptionnel. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce film, c'est et le faire sous cet angle-là, celui de la blessure dans le monde de la danse, parce que et Stephen m'a dit oui aussi pour faire ce film, parce qu'il voulait vraiment parler de ça, de la situation des danseurs aujourd'hui, et que ce film serve pour les générations futures, parce que la blessure dans le monde de la danse, c'est un sujet extrêmement tabou, on n'en parle pas, on n'a pas envie d'en parler, on a envie de montrer les danseurs magnifiques, ils font 15 tours, ils font 18 grands jetés, et on applaudit, on se dit ouais, ils sont magnifiques, mais derrière il y a des heures et des heures et des heures de travail, ils peuvent se blesser, et il faut prendre tout ça en considération en fait. Comme le dit très bien Stephen dans le film, si vous êtes blessé, c'est pas grave, arrêtez-vous, prenez trois mois, six mois, un an, deux ans, vous allez redanser, mais au moins vous allez redanser, alors que si vous dansez sur une blessure, votre carrière va s'arrêter en fait, et il faut que ça s'arrête. Ouais, le film, en fait, je l'ai vraiment construit comme une fiction, presque. Je voulais pas d'interview face caméra, je voulais pas ce genre de choses, je voulais pas les témoignages d'autres personnes. Je voulais rester le plus possible dans les séquences et dans ce qui se passerait et dans les confidences de Steven.
I want to be the artist again. I want the freedom. This is my story now.
Steven, ce qu'il a toujours du mal, je crois, à digérer, c'est le fait qu'il est tombé devant 3000 personnes en plein spectacle. Le rideau s'est fermé et 20 minutes plus tard, il y a un danseur qui l'a remplacé. The show must go on, comme on dit dans le milieu. Donc c'est comme ça et il faut l'accepter. Mais c'est vrai que pour un danseur de ce niveau-là, je pense que c'est douloureux, quoi. Parce qu'on se dit, ah, en fait, je suis remplaçable. Donc voilà, il y a tout ça derrière la blessure, comment on gère la blessure, etc. Et c'est vrai que le mental, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Nous écoutions Stéphane Carrel, que tu as pu rencontrer, Sophia, pour le film Resilient Man en salle depuis le 17 avril. Il avait marqué les esprits avec Drive My Car ou Senses. Voici le nouveau film de Ryuzuke Hamaguchi, Le mal n'existe pas.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Délaissant les contes moraux sur les rapports amoureux et les portraits magnifiques de femmes sous influence à la fois de Romère et de René, l'un pour le fond, l'autre pour la forme, Ryuzuke Hamaguchi revient donc avec un film radical, une expérience sensorielle et visuelle réinventant son cinéma qui s'ouvre vers d'autres horizons. Alors Le mal n'existe pas se présente comme une fable écologique sous-tendue en creux par une dimension quand même de thriller qui se joue davantage par le ressenti que par l'histoire elle-même, assez prosaïque sur le papier. Takumi, un homme rustre, et sa fille Anna vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Ils mènent, selon les traditions, une existence modeste en harmonie avec la nature. Mais le projet d'un glamping dans le parc naturel voisin, soit un camping glamour, c'est une contraction. Pour les citadins en manque de verdure, crée une angoisse chez Takumi et les villageois liée à un risque de déséquilibre écologique. Le cinéaste réinvente le pamphlet universel alors sur le rat des champs et le rat des villes, avec une complexité et une intelligence de regard qui l'éloigne de tout simplice et de vision manichéenne. Le génie d'Hamaguchi tient à sa seule puissance de la mise en scène, qui fait preuve d'une audace ahurissante, passant d'un point de vue d'un personnage à un autre, redistribuant les cartes d'un drame cruel parsemé d'humour, qui n'est jamais d'ailleurs là où on l'attend. On pourrait s'attendre à un film à charge contre l'urbanisme, le quotidien survolté des citadins toujours pressés en opposition aux ruraux tranquilles épousant le rythme de leur environnement. Alors cet aspect n'est pas absent, mais le cinéaste ne juge personne et n'occulte pas la brutalité émotionnelle dont font preuve les villageois. Le mal n'existe pas, c'est une œuvre splendide et mystérieuse, d'une beauté visuelle sidérante, accompagnée alors d'une partition hypnotique et toujours judicieusement intégrée de la mise en scène de la musicienne Eiko Ishibashi, accompagnée d'ailleurs à la guitare par Jim O'Rourke, artiste culte de la scène post-rock et expérimentale. Et d'ailleurs, pour un petit aparté, au départ, le film était un projet musical. Et donc, le cinéaste a retravaillé en fait ce projet en fait pour donner donc ce film qui est le mal n'existe pas. Alors l'épilogue déroutant, même incompréhensible pour certains, remet complètement en perspective le déroulé du film, bousculant notre perception, sans doute attirée par la surface et non ce qui se tramait en parallèle. En cela, le film s'impose comme une pièce maîtresse dont la richesse ne peut suffire d'une seule vision, forcément faussée par la subtilité du récit. Alors, il n'est pas illégitime de penser que nous sommes peut-être passés à côté de l'essentiel, que nous n'avons pas vu les signes qui expliqueraient cette fin qu'on pourrait dire un peu « what the fuck » qui lorgne un peu du côté d'un fantastique qu'on a peut-être pas perçu et qui rappelle un peu certains films de Kiyoshi Kurosawa, dont Hamaguchi d'ailleurs était l'élève.
Nous parlions du Mal n'existe pas, un film en salle depuis le 10 avril. Sur une île inhabitée des Cornouailles, une bénévole passionnée de vie sauvage se livre à des observations quotidiennes sur une fleur rare. Nous parlons de Any's Men de Mark Jenkins.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Pourquoi pourquoi aller chercher midi à 14h quand on a déjà tout à portée de main? Alors c'est ce que le Britannique Mark Jenkins a dû se dire lorsqu'a sonné l'envie et l'opportunité de signer son second long métrage, Anisman, puisqu'après Bate en 2019, il reprend l'actrice Marie Woodvine, parle d'une tragédie familiale et met en scène des marins et leur vie parfois conflictuelle avec leur bateau. Ah oui, hein, et quitte à marquer les esprits, il reprend également l'exacte même mise en scène, hein, basée sur des choix esthétiques bien particuliers, même s'ils n'ont aujourd'hui plus rien d'étonnant ou de dépaysant. Anisman est donc cadré en 4 tiers hein, et est auréolé d'une photographie très granuleuse, aux couleurs fuyantes voire bavantes, hein, comme un filtre Instagram imitant la pellicule des années 70. Alors ce qui pourrait être lassant hein, s'avère ici être un assez bon choix, car à défaut de défriser le spectateur, Anisman montre qu'il est le travail adroit d'un réalisateur ayant une vision assez rigoureuse de ce qui aurait pu être un piège à hipster. Oui, c'est bête, rôde encore et contamine toujours le milieu du cinéma, comme les fantômes du film dont on va parler. Le résumé officiel du film est bien sûr laconique à souhait. Alors, sur une île inhabitée des Cornouailles, une bénévole passionnée de vie sauvage se livre à des observations quotidiennes sur une fleur rare. Alors, sa vie est hypnotique, dans sa monotonie, elle répète les mêmes gestes jour après jour, comme un rituel. Au fur et à mesure, des sons et des images provenant d'autres temporalités commencent à s'infiltrer, perturbant progressivement son équilibre. Et oui, hein, sous le soleil, même celui gelé hein, des Cornouailles, hein, pas grand-chose n'a changé, il en faut toujours aussi peu pour lancer un film d'angoisse. Oui, mais voilà, s'il a tout hein, pour énerver à prime abord, Anisman est intriguant et, bah, sans pour autant traduire une expérience totalement mémorable, c'est suffisamment bien placer ses pions pour convaincre. Car il y avait tout hein, pour détester la démarche inaugurale, celle qui a donné naissance à tant de navets prétentieux qui n'ont rien fait de moins que de tuer le genre depuis un peu plus de 10 ans, utilisant le fantastique ou l'horreur pour cacher un manque de fond, d'inventivité et surtout bah, un franc mépris hein, pour ces mêmes cinémas fantastiques et d'horreur. Anisman hein, a des situations extrêmement répétitives, des plans quasiment intégralement fixe, un rythme lent, un univers parfois cryptique, une héroïne mutique, des scènes de non-action terriblement statiques. Alors bien sûr, cette routine prend une tournure étrange à un moment donné. On voit apparaître des personnes, des symboles ou des objets qui semblent avoir une signification particulière. Une part est sans doute liée au passé de l'île et une autre au passé de la protagoniste. On imagine un lien avec ces marins qui auraient disparu en mer, en particulier avec l'un d'entre eux avec qui on la voit subrepticement faire l'amour. Et on imagine aussi un lien plus fantasmagorique hein, car le terrain de jeu, hein, la planche à moitié détruite où figure le nom d'un bateau échoué, l'isolement d'un protagoniste féminin et une radio comme seul moyen de communication avec l'extérieur fait fortement penser à Fog de John Carpenter. Mais pour la comparaison avec la rigueur de Big John, ça s'arrête là. On bascule très vite, on le comprend, dans l'expérimental au-delà du contemplatif, avec un petit zeste de folk horror version film d'auteur, genre au pluriel, qui ont pris pas mal de cotes depuis quelques années et dont le modèle absolu reste The Wicker Man. Le film a été tourné pendant un confinement de 2020, donc il y a fort à parier que l'apparition du lichen sur la fleur tant observée et sur le corps de l'héroïne marquée par le temps a une signification cachée, mais cela ne constitue pas un intérêt transcendant pour la parfaite compréhension des choses. Car si l'ésotérisme prend peu à peu le dessus, il nous amène pas forcément vers quelque chose de clair, et c'est ce qui constitue le point fort et faible du film. Jenkins ayant un don certain pour captiver avec peu, les quelques plans horrifiques avec entre autres des mineurs semblant surgir d'un mélange entre l'hôpital et ses fantômes de Lars von Trier ou de la saison 3 de Twin Peaks de David Lynch, marchent du tonnerre, et si son travail assez intense sur le montage et l'ambiance font leur office, on aurait aimé en savoir au final un peu plus sur ce qui est en train de ronger, et dans tous les sens du terme, notre pauvre héroïne et au nerf par la même occasion. Non, si je devais faire une dernière comparaison, moi je pense surtout au film de Jean-Teddy Philippe, Les Documents Interdits, on y pense un petit peu avec donc, comme je disais, ce petit zeste de folk horror typiquement britannique.
Eh bien, c'est un film à voir en salle depuis le 17 avril, ce Anisman. Surveillante pénitentiaire expérimentée, elle va devoir se compromettre avec le milieu corse. Nous parlons de Borgo, de Stéphane Desmoustiers. C'est la deuxième interview de cette émission.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Stéphane Desmoustiers, le frère d'eux, avait marqué il y a 4 ans avec La fille au bracelet, l'histoire d'une adolescente soupçonnée d'avoir tué sa meilleure amie. Et c'est encore une histoire de meurtre qui guide Borgo, titre emprunté au nom d'une prison corse dans laquelle le réalisateur a placé Mélissa, interprétée par Afzia Herzi. Avec son compagnon, elle vient de s'installer sur l'île de Beauté et dans cette prison, prison. On dit que ce sont eh bien, plutôt les prisonniers qui surveillent les gardiens. Et il est vrai que la jeune femme compose avec le règlement et avec les mœurs d'un territoire qui, il faut bien le dire, n'est pas la métropole, quoi qu'on en dise. Un prisonnier fraîchement libéré ne va pas tarder donc à lui demander un service, et c'est l'engrenage. Dans un film où il ne fait pas souvent beau, Stéphane Desmoustiers s'intéresse au destin d'une femme eh bien, tout à fait ordinaire qui va devenir complice du grand banditisme. Il le fait sans jugement, en alternant alors deux récits, celui de celle qui est désignée coupable pour le spectateur, on voit exactement l'engrenage, et celui de l'enquête avec des policiers complètement paumés. Il en résulte un film plutôt bien maîtrisé par Stéphane Desmoustiers que nous allons tout de suite écouter.
C'est quand même l'histoire de quelqu'un qui arrive dans un territoire qui n'est pas le sien et qui essaie d'y faire sa place.
Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2 ? On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse.
Le film que j'ai envie de faire, c'était un film qui s'intéresse à cette question. C'est comment on peut en quelques mois passer d'une vie ordinaire à complice du grand banditisme ou partie prenante du grand banditisme. Je pense pas que les monstres existent et donc je voulais essayer de, pas de comprendre, mais de questionner le parcours de cette fille qui est dans mon film totalement un personnage de fiction, qui arrive en Corse, qui travaille comme surveillant de pénitentiaire et qui va petit à petit glisser. C'est vrai que c'est un personnage féminin dans un monde d'hommes. J'aimais bien l'idée d'un personnage tiraillé. Je pense que sa situation de vulnérabilité, elle est renforcée par le fait que c'est une femme. Je pense que c'est pour ça que ce personnage m'intéressait. Elle arrive dans un territoire qui n'est pas le sien. Elle arrive dans un monde qui est un monde d'hommes. Elle arrive dans un monde qui est régi par des codes qui sont parfois assez virils ou dans lesquels la séduction agit énormément aussi. Donc sa condition de femme a une influence sur son expérience. Donc je pense que c'est pour ça que ce personnage m'intéressait.
Oui, t'inquiète pas, hein. Ma Corse, c'est petit. Si on doit se croiser, on se croisera.
Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage.
Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose, le jour où il sort.
Il y a deux surveillants pénitentiaires de la prison de Borgo qui jouent dans le film, qui jouent leur propre rôle. Et j'ai beaucoup parlé avec eux, j'ai aussi parlé avec des détenus. Et c'est sûr que les surveillants pénitentiaires vous le disent tous, il y a une règle, mais après c'est un métier dans lequel ils ne font que traiter de l'humain et ils doivent constamment en tenir compte. Ils sont face à des gens qui sont en situation de détresse en permanence. Donc il s'agit d'entendre leur détresse, de la prendre en compte et de parfois, toute proportion gardée, l'apaiser. C'est une histoire de curseur et notre personnage, effectivement, elle a cette attention-là, cette vigilance, cette empathie, mais elle va aussi peut-être, d'une certaine mesure, en être victime.
Ça règle le monde compte. C'est une bande de Corse qu'on veut à une autre bande de Corse.
Boum, boum.
Ils continuent à s'entretuer, ça nous fera des vacances.
Il y a vraiment presque deux temporalités, deux narrations et deux régimes différents. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'histoire de la matone qu'on suit avec elle. On est immergé avec elle dans son arrivée en Corse et dans ce qu'elle traverse. Et en parallèle, on suit une enquête. L'enquête qui est menée par un commissaire qui est joué par Michel Faux et son acolyte qui est joué par Pablo Poli. Et cette enquête revient de manière récurrente dans une autre temporalité aussi, ce qu'on finit par comprendre en voyant le film. Voilà, j'avais écrit directement avec l'idée de ce double récit. Je trouvais intéressant qu'il y ait l'enquête policière qui régulièrement jalonne le film parce que je trouve que ça donne un rythme. Ça donne un rythme et aussi une respiration. J'aimais bien montrer une enquête parce que j'aime bien les polars avec des enquêtes et j'aimais bien l'idée de montrer là, une enquête qui n'est pas tout à fait exactement comme celle qu'on voit habituellement dans les films. Là, on voit qu'il tâtonne énormément, on voit qu'il se heurte à une technologie défaillante, on voit qu'il se heurte parfois à un peu de lassitude, notamment chez le commissaire qui est joué par Michel Faux. Parce que c'est ça la réalité des commissariats, c'est pas ce qu'on voit dans les films où il y a un rebondissement toutes les 7 secondes. Donc j'aimais bien montrer cette enquête qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et puis c'est vrai qu'eux, ils ont accès à des images de vidéosurveillance qui captent tout, mais qui en fait, parce qu'il n'y a pas de point de vue, ne saisissent rien. C'est ce qu'on comprend, puisqu'on a nous aussi accès à notre réalité en suivant le personnage d'Afsarazi. Et ça, je trouvais que c'était une réflexion quand même assez intéressante. Enfin, en tout cas, que ça posait des questions sur qu'est-ce que ça signifie filmer ou qu'est-ce qu'on voit en filmant et en montrant tout. Qu'est-ce qu'on voit réellement.
Est-ce que vous aimez votre travail?
Parfois, c'est dur. Parfois, je fatigue.
Et vous êtes proche de vos détenus?
Alors, c'est toi, la matone?
Oui.
Et vous voyez certains détenus en dehors du travail?
Vous m'avez suivi?
Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila.
Être coupable de la justice n'enlève rien pour moi, ce qu'elle est dans mon film, même si on ne sait pas si la justice la rattrapera, n'enlève rien pour moi à la complexité du processus et au caractère ambivalent de toutes les émotions qui traversent le personnage. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est qu'est-ce qui... qu'est-ce qui la traverse, elle, à quel mobile ou quelles émotions font qu'elle agit comme elle agit. Je pense qu'on peut tous à un moment agir différemment, mais on est tous obligés de reconnaître qu'on aurait pu faire ce qu'elle a fait. Et c'est ça qui m'intéressait, moi.
Toi, je vais te donner un conseil. Maintenant, fais-toi discrète.
Nous écoutions Stéphane Desmoustiers, le réalisateur de Borgo, excellent film en salle depuis le 17 avril. Et nous allons terminer avec un autre excellent film qui nous a tous les deux comblés, Sophia, c'est Riddle of Fire, des enfants qui cherchent le code parental, qui va leur permettre de se lancer dans une partie de jeu vidéo, mais rien ne se passe comme prévu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Premier long métrage du réalisateur Weston Rosalie. Alors, si on le prononce un peu vite, ça sonne un peu comme Western Spaghetti. Et ce n'est pas anodin. En tout cas, c'est un nom à retenir. Alors, si mon petit mémotechnique nous y aide, pourquoi pas. Weston est originaire de l'Utah, aux États-Unis. Et il revient sur les terres qui l'ont vu grandir pour filmer cette histoire autour d'une sensationnelle bande de petits chenapans dans ce milieu naturel fait de vastes forêts montagneuses. Alors, le film est produit par sa maison de production, Anaxia. Il le filme en 16 mm, en argentique, hein, donc, ce qui permet une qualité de l'image très particulière et correspond parfaitement au conte fabuleux qu'il développe en un peu moins de 2 heures. Tourner en numérique aurait tué la magie et la suspension d'incrédulité, déclare le réalisateur. Alors, c'est vrai que les couleurs des pellicules Kodak apparaissent vives, saturées, mais tout en arborant un grain, des profondeurs de champ un peu mal gérées parfois, mais qui rendent l'image légèrement floue, vaporeuse, ce qui concourt bien à créer une ambiance féerique. Et la féerie est vraiment là, dans ce néo-conte de fées à la croisée des genres, qui se développe en une incroyable comédie d'aventure où les Goonies auraient été mixés à l'univers de Stranger Things, le tout pétri sur un plateau de Jumanji et saupoudré d'un soupçon des contes de Grimm.
What the hell?
Un groupe de 3 enfants bandits intrépides, affublés de motocross, sont lancés dans une épopée labyrinthique et enchantée. En chemin, ils rencontrent une aide précieuse, la petite Pétale, fée Follette, princesse de la lame enchantée, et ensemble, comme des gobelins des forêts, ils vont littéralement se faufiler dans un environnement parsemé d'embûches, parfois lutter et affronter les adultes, surtout, parfois esquiver les menaces pour parvenir à réaliser leur désir, faire une tarte, alors pas n'importe laquelle, une blueberry pie, pour la maman malade des garçons, et pouvoir surtout obtenir le mot de passe du contrôle parental de la télé pour jouer aux jeux vidéo. Il y a quelque chose de presque anachronique dans le rapport à la technologie qui est pourtant toujours présente dans le film, qui est une œuvre ultra référencée, on pourrait dire un film de geek à l'esthétique enivrante et accessible. La musique est magnifiquement appropriée et fait elle aussi référence à l'univers de la fantasy et aux bandes-son de vieux jeux vidéo avec des morceaux digués par le réalisateur dans le genre Dungeon Synth. Alors il s'agit d'une musique électro, au synthé, évocatrice de fantastiques sombres. Aussi, en contre-pied de la bande des enfants, on a des méchants qui ont presque l'air d'antagonistes sortis de chez Tarantino ou des frères Cohen, qui se chicanent en permanence et bien qu'ils aient pour certains l'air assez dangereux et effrayants, d'autres membres du gang, hein, Marty par exemple, incarné par le réalisateur Weston Rosalie lui-même, sont plus franchement débiles. Au-delà de ce type de référence, hein, entre les pères absents et les rôles masculins à l'écran, il y a vraiment une espèce de satire filée de la masculinité. La danse est menée par les femmes, alors autant dans le groupe des kids où Alice prend souvent le lead, que chez les méchants où la sorcière toute puissante soumet le reste du groupe à ses désirata. Elle soumet notamment, plus franchement, le bandit cow-boy viril, repris de justice, John Red Rye, interprété par Charles Halford. Alors, dès son entrée en scène, lui, qui est morcelé dans le film, on voit sa main qui s'empare de la dernière boîte d'œufs du supermarché, puis ses boots, son chapeau, son truck. Enfin, on a vraiment pièce par pièce tous les attributs du catalogue de la virilité néo-western. Le personnage que parvient à développer, en fait, Weston Rosalie, est éminemment drôle et complexe. On est face à un vrai bad boy viril, un méchant qui fait peur et qui ne supporte pas de répondre aux ordres d'une femme, mais qui est comme prisonnier d'une forme d'impuissance ridicule qu'il dépeint lui comme parfaitement dépassé, voire totalement désuet. Alors là, les références sont certainement innombrables. Ses allures de bûcheron cow-boy des montagnes et son caractère le font ressembler, à mes yeux, autant au Dude, Duke en français, des Cohen, ou à Sylvain, dans Simple comme Sylvain de Monia Choukri, ou encore à un Rick de The Walking Dead, ou au personnage de Dick dans la série I Love Dick. Il y aura encore tellement à dire sur ce premier long métrage magique où le pouvoir de l'imaginaire et le folklore sont célébrés comme exutoires pour bâtir un monde fort d'amitié au-delà des carcans familiaux dysfonctionnels. Je dirais seulement, allez le voir, c'est un film coup de cœur envoûtant et retenez ce nom, Weston Razzoli, ça sonne comme Western Spaghetti.
Et ce film, donc, ce petit bijou, est à voir en salle depuis le 17 avril.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, alors évidemment, avec toujours des films. Manu nous parlera de Première Affaire et de Déserteur. Et toi, Guillaume?
De L'Échappée.
Et puis toi, Sophia, tu vas tenter de voir un film français.
Oui, Frère, avec Yvan Attal et Mathieu Kassovitz.
À la semaine prochaine.